« Regarde-moi, dis-je. Moi aussi, je suis un tigre. »
D'un seul coup, je te pousse toi aussi au milieu de la pièce. Je t'arrache ton t-shirt. Je déchire la ceinture de la moulante cuirasse qui cache les grâces de ton ventre ambré. Maintenant, toi, à la pâle lumière de la lune qui pénètre par la porte entrouverte, tu te dresses plus belle que le serpent qui séduit Adam, fière et lascive, vierge et prostituée, vêtue de ton seul pouvoir charnel parce que la femme nue est la femme armée.
Le claft égyptien descend sur tes cheveux touffus, bleu à force d'être noir, ton sein palpitant sous la mousseline légère. Autour de ton petit front bombé et obstiné s'enroule l'Euraüs d'or aux yeux d'émeraude, dardant sur ta tête sa triple langue de rubis. Oh, ta tunique de voile noire aux reflets d'argent, serrée par une écharpe brodée d'iris funeste, en perles noires. Ton pubis replet, tout rasé afin d'offrir aux yeux de tes amants la nudité d'une statue. La pointe de tes mamelons déjà suavement effleurée par le pinceau de ton esclave du Malabar, trempée dans le même carmin qui t'ensanglante les lèvres, invitante comme une blessure. Rodin à présent respire péniblement. Les longues abstinences, la vie passée dans un rêve de puissance n'ont rien fait d'autre que le préparer encore plus à son désir irrépressible. Face à cette reine belle et impudique, aux yeux noirs comme ceux du démon, aux épaules rondes, aux cheveux odorants, à la peau blanche et tendre, Rodin est pris par l'espérance de caresses ignorées, de voluptés ineffables. Il frémit dans sa chair même, tel frémit un dieu des forêts en observant une nymphe nue qui se mire dans l'eau où s'est déjà damné Narcisse. Je devine à contre-jour son rictus irrépressible. Il est comme pétrifié par Méduse, sculpté dans le désir d'une virilité réfrénée, et maintenant à son déclin. Des flammes obsédantes de lascivité lui tordent les chairs. Il est comme un arc bandé vers le but, bandé jusqu'au point où il cède et se brise. D'un coup, il est tombé sur le sol, rampant devant cette apparition, la main telle une serre tendue pour implorer une gorgée d'élixir. « Oh, râle-t-il, oh, comme tu es belle, oh, ces petites dents de jeune louve qui brillent quand tu ouvres tes lèvres rouges et renflées, oh, tes grands yeux d'émeraude qui tantôt étincellent et tantôt languissent, oh, démon de la volupté !» Il a de quoi, le misérable, tandis que tu remues à présent tes hanches moulées par la toile bleuâtre et que tu tends le pubis pour pousser le flipper à la dernière démence. « Oh, vision !» dit Rodin, « sois mienne. Pour un seul instant, comble par un instant de plaisir une vie passée au service d'une divinité jalouse. Console d'un éclair de luxure l'éternité de flamme. À quoi ta vision maintenant me pousse et entraîne, je t'en prie. Effleure mon visage de tes lèvres, toi, Antinéa, toi, Marie-Madeleine, toi que j'ai désiré dans la face des saintes troublées par l'extase, que j'ai convoité au cours de mes hypocrites adorations de visages virginaux. Oh, madame !» Tu es aussi belle que le soleil, blanche comme la lune, et voilà que je renie et Dieu et les saints et le pontife de Rome soi-même, je dirais plus, je renie le Loyola et le serment criminel qui me lie à ma compagnie, j'implore un seul baiser, et puis que j'en meure. » Il a fait encore un pas, rampant sur ses genoux racornis, la soutane soulevée sur ses reins, la main encore plus tendue vers ce bonheur impossible à atteindre, soudain, il est retombé en arrière, les yeux paraissent lui sortir des orbites. D'atroces convulsions impriment à ses traits des secousses inhumaines, semblables à celles que la pile Volta produit sur le visage des cadavres. Une écume bleuâtre empourpre ses lèvres, d'où sort une voix sifflante et étranglée comme celle d'un hydrophobe, car lorsqu'elle arrive à sa face paroxystique, ainsi que le dit fort bien Charcot, cette épouvantable maladie qu'est le satyriasis, punition de la luxure, marque les mêmes stigmates que la folie canine. C'est la fin. Rodin éclate en un rire insensé, après quoi il s'écroule sur le sol, inanimé, image vivante de la rigidité cadavérique. En un seul instant, il est devenu fou et il est mort damné. Je me suis limité à pousser le corps vers la trappe, avec Cautel, pour ne pas salir mes poulaines vernies contre la soutane graisseuse de mon dernier ennemi. Nul besoin du coutelas homicide de Luciano. Mais le sicaire ne parvient pas à contrôler ses gestes, lancé qu'il est dans une funeste compulsion de répétition. Il rit et poignarde un cadavre désormais sans vie. À présent, je me dirige avec toi vers l'extrême bord de la trappe. Je te caresse le cou et la nuque, alors que tu te penches pour jouir de la scène. Je te dis, es-tu contente de ton rocambole, mon amour inaccessible? Et tandis que tu fais signe que oui, lascive, et que tu ricanes en salivant dans le vide, je serre imperceptiblement les doigts. Que fais-tu, mon amour? Rien, Sophia, je te tue. Dorénavant, je suis Joseph Balsamo et n'ai plus besoin de toi. La menthe des archontes expire, tombe à pic dans l'eau, Luciano ratifie d'un coup de lame le verdict de ma main impitoyable et je lui dis « Maintenant tu peux remonter, mon féal, mon âme damnée. » Et au moment où en remontant il m'offre son dos, je lui plante entre les omoplates un très fin stylet à lame triangulaire qui ne laisse presque aucune cicatrice. Il dégringole, je ferme la trappe, c'est fait. J'abandonne le bouge alors que huit corps naviguent vers le Châtelet par des conduits connus de moi seul. Je reviens dans mon petit appartement du Faubourg Saint-Honoré. Je me regarde dans mon miroir. Voilà, me dis-je, je suis le roi du monde. De mon aiguille creuse, je domine l'univers. En de certains moments, ma puissance me fait tourner la tête. Je suis un maître d'énergie, je suis ivre d'autorité. Hélas, la vengeance de la vie ne tardera pas. Des mois après, dans la crypte la plus profonde du château de Tomar, maître maintenant du secret des courants souterrains et seigneur des six lieux sacrés de ceux qui avaient été les 36 invisibles, dernier des derniers templiers et supérieur inconnu de tous les supérieurs inconnus, je devrais épouser Cécilia, l'androgyne aux yeux de glace, de laquelle plus rien ne me sépare désormais. Je l'ai retrouvée après des siècles, depuis qu'elle m'avait été soufflée par l'homme au saxophone. À présent, elle marche en équilibre sur le dossier du banc, bleue et blonde, et je ne sais toujours pas ce qu'elle a sous le tulle vaporeux qui la pare. La chapelle est creusée dans le roc. L'autel est surmonté d'une toile inquiétante qui présente les supplices des damnés dans les entrailles de l'enfer. Quelques moines encapuchonnés me font ténébreusement haie, et encore point ne me trouble, fasciné que je suis par l'imagination ibérique. Mais, horreur, la toile se soulève. Et derrière elle, œuvre admirable d'un Arcimboldo des cavernes, apparaît une autre chapelle, en tout semblable à celle où je me trouve, et là, devant un autre autel, est agenouillée Cécilia. Et à côté d'elle, une sueur froide emperle mon front, mes cheveux se dressent sur ma tête. Qui vois-je ? Arboré narquois sa cicatrice ? L'autre, le vrai Joseph Balsamo, que quelqu'un a libéré du cachot de San Leo. Et moi ? C'est à cet instant que le plus vieux des moines soulève son capuchon. Je reconnais l'horrible sourire de Luciano, réchappé, qui sait comment, à mon stylet, aux égouts, à la boue sanglante, qui aurait dû l'entraîner cadavre maintenant dans le fond silencieux des océans, passé à mes ennemis, par juste soif de vengeance. Les moines se libèrent de leur froc et surgissent cataphractés dans une armure jusqu'alors cachée, une croix flamboyante sur leur manteau blanc comme neige. Ce sont les templiers de Provins. Ils s'emparent de moi, me contraignent à tourner la tête. Dans mon dos est apparu un bourreau accompagné de deux aides difformes. On me fait ployer sur une sorte de garrot. Et avec une marque au fer rougi à blanc, on me consacre proie éternelle du geôlier. Le sourire infâme du Baphomet s'imprime à jamais sur mon épaule. Maintenant je comprends. Afin que je puisse remplacer Balsamo à San Leo, autrement dit, reprendre la place qui m'avait été assignée de toute éternité. « Mais ils me reconnaîtront, me dis-je, et puisque tous croient désormais que moi, je suis lui, et lui, le damné, on me viendra même en aide, mes complices, au moins. On ne peut remplacer un prisonnier sans que personne s'en aperçoive. Nous ne sommes plus au temps du masque de fer. Naïf, en un éclair je comprends quand le bourreau me fait pencher la tête sur une cuvette de cuivre, d'où s'élèvent des vapeurs verdâtres. Le vitriol ! On m'assujettit un chiffon sur les yeux, et mon visage est poussé au contact du liquide vorace. Une douleur insupportable, lancinante, la peau de mes joues, du nez, de la bouche, du menton se recroqueville, s'écaille, un instant suffit, et comme on me relève, en me tirant par les cheveux, mon visage est maintenant méconnaissable. Un tabès, une variole, un indicible néant, un hymne à la répugnance. Je reviendrai au cachot ainsi qu'y reviennent beaucoup de fugitifs qui eurent le courage de se défigurer pour ne pas être repris. Ah, m'écriai-je vaincu, et au dire du narrateur, un mot sort de mes lèvres corrompues, un soupir, un cri d'espoir. Rédemption ! Mais rédemption de quoi, vieux rocambole ? Tu savais bien qu'il ne fallait pas tenter d'être un protagoniste. Tu as été puni. Et par tes artifices même, tu as humilié les écrivains de l'illusion, et à présent, tu le vois, tu écris avec la libide de la machine. Tu t'imagines que tu es spectateur, parce que tu te lis sur l'écran comme si les mots étaient ceux d'un autre. Mais toi, tu es tombé dans le piège. Voilà que tu cherches à laisser des traces sur le sable. Tu as osé changer le texte du roman du monde, et le roman du monde te reprend dans ses trames, et t'en sert dans son intrigue, que tu n'as pas choisie. Mieux valait que je reste dans tes îles, Jim de la Papaye, et qu'elle t'eût cru mort.